Chapitre 4. Aucune forteresse, même la mieux protégée, n'est inviolable. Aucune prison, même la mieux gardée, ne résiste à l'astuce d'un détenu intelligent. La prison de Liverpool n'était pas l'Oflag de Colditz, mais s'en évader était tout aussi difficile. Christine Lloyd savait que tout se jouerait dans un intervalle de 6 minutes entre l'instant où éclaterait le feu d'artifice de son gurkha et celui où le prisonnier se glisserait le long de sa corde. Un grain de sable, cependant, restait toujours possible. Le chatouillement inopiné d'une prostate, par exemple, pouvait contraindre un des gardiens à monter aux toilettes du 3e étage, dont la petite fenêtre donnait sur l'angle du mur nord, celui-là même que le fugitif allait emprunter. Il n'y eut aucun grain de sable, et Christine Lloyd sauta dans l'ambulance à la minute qu'il avait prévue. Des gerbes de flammes illuminaient les murs de la prison, et l'on entendait dans le lointain la sirène des pompiers qui se hâtaient sur les lieux. S'évader est une question de chronométrage. Le plus difficile vient ensuite. Il faut anticiper sur les poursuivants. Tulpa Adur Tapa conduisait à bonne allure, mais sans prendre de risques excessifs. Il avait mémorisé la carte de la région et parcouru la route à plusieurs reprises, de jour et de nuit, par temps de pluie et par épais brouillard. La disparition des panneaux signalétiques ne facilitait pas la tâche, mais comme tous les gens formés par la nature et la montagne, sa mémoire visuelle était excellente. Il bifurqua bientôt en direction de Crosby. Stoppant à proximité de la gare, il alla ouvrir la porte arrière de l'ambulance et poussa la moto sur la chaussée. Les deux hommes mirent des lunettes protectrices, sautèrent sur l'engin, puis repartirent dans la direction opposée, celle de Liverpool. Christine Lloyd le savait. Il ne fallait pas sous-estimer la rapidité de réaction de la police. Puisqu'il était censé fuir Liverpool, les premiers barrages seraient dressés à la périphérie de la ville, puis du côté de Southport, Wigan et St. Helens, afin d'interdire aux fugitifs de filer vers le sud en direction de la capitale ou de se perdre dans le labyrinthe urbain de Manchester. On arrêterait les rarissimes véhicules qui sortaient de Liverpool, mais non une moto qui y entrait. Tout se passa comme prévu. Le premier barrage était en place à hauteur de Bootle, mais dans le sens opposé au leur. Ils ne furent pas inquiétés et n'eurent même pas à sortir leurs faux papiers. Quelques minutes plus tard, Tapa stoppait dans le quartier ouvrier de la ville. Dans la modeste chambre qu'il louait depuis 3 mois, il avait réuni vêtements, provisions et cigarettes. Une bouteille de champagne attendait même dans l'évier pour fêter la victoire. Ils ne bougèrent pas pendant 3 jours. L'ambulance ayant été retrouvée près de la gare de Crosby, la police en avait conclu que Lloyd s'était glissé dans un train de marchandises. Il était urgent désormais de quitter enfin Liverpool, car les enquêtes de proximité conduiraient nécessairement les poursuivants au meublé que louait le gurkha. Tapa vivait depuis longtemps en Angleterre, mais on le repérait aussi facilement qu'un père blanc dans un village africain, d'autant qu'il était muet. Pour l'étape suivante, le gurkha avait prévu un discret bungalow près du château de Carlaverock, dans la campagne d'Écosse, car Christine envisageait de passer en Irlande, pays neutre où il comptait quelques amis sûrs. Les deux hommes se séparèrent à Preston, où Lloyd prit le train pour Glasgow. Déguisé en pasteur anglican, il portait des lunettes cerclées d'or et une barbe postiche. De son côté, Tapa poursuivit en direction de Blackburn, où il abandonna sa moto et retrouva la bicyclette abandonnée dans un fossé quelques jours plus tôt. Il ne lui restait plus qu'à regagner le manoir, où la police, sans aucun doute, viendrait le cueillir. Il fut, en fait, arrêté un peu avant Todmorden, du côté d'Orrington, ce qui ne le dérangeait pas. En bon gurkha, il aurait préféré se faire hacher menu plutôt que de trahir son maître. De plus, il se flattait d'être titulaire de la Victoria Cross. Autrement dit, il appartenait à l'élite de l'élite, puisqu'on comptait sur les doigts d'une main le nombre de gurkhas qui avaient été ainsi honorés. À la différence des décorations réservées aux médiocres, qui s'obtiennent en flattant les croupes, la Victoria Cross était attribué au comte Goutte et pour des actes de courage exceptionnels. Le Gurkha n'eut pas de chance. Les deux policiers qui, ce 20 mai, procédèrent à son arrestation étaient jeunes. Ils n'auraient pas hésité à débiter leurs meilleurs amis à la hache pour obtenir une promotion. Le silence du Népalais fut perçu comme un outrage. Ils le rouèrent de coups et se déchaînèrent quand ils découvrirent qu'il portait un kukri. Tapa resta de marbre, alors qu'il lui aurait été si facile de se débarrasser en un tournement des deux voyous en uniforme. Et c'est ainsi que l'un des soldats les plus décorés de tout l'Empire britannique faillit perdre la vie entre Orrington et Todmorden. L'information parvint à Carlisle 8 heures plus tard, alors que le Gurkha venait d'être admis à l'hôpital. Le Népalais, qui en avait vu d'autres, se remit en quelques jours. À la demande du colonel Barnes, on le conduisit au quartier général de Paternoster. Le hasard faisant bien les choses, il y arriva en même temps que Christian Lloyd, que les Écossais venaient d'appréhender à Stranraer, d'où il s'apprêtait à passer en Irlande. Il n'avait commis aucune erreur, mais des douaniers le prirent pour un trafiquant de marché noir recherché depuis des mois. Le vendredi 29 mai, Christian Lloyd et Tulba Adur Tapa se retrouvèrent côte à côte dans le bureau du colonel Barnes. Carlisle. Pendant que Joyce, la jeune secrétaire aux cheveux roux, servait le thé, boisson d'ailleurs que Christian détestait, l'officier se saisit du document qu'il avait sous les yeux et le relut une nouvelle fois. Christian Lloyd, né le 8 septembre 1895 à Shillong, Bengale, fils unique de Michael R. Lloyd, 1870-1925, planteur de thé et trafiquant d'opium, et de Steffi Sprick, 1873-1925, de nationalité allemande, elle-même fille du révérend Paul Sprick de la mission luthérienne. Études secondaires chez les jésuites en Allemagne, 1906-1913. Études supérieures à Oxford, 1913-1914, 1919-1921, et à Florence, 1921-1924. Diplômé d'italien, B.A. Honors, et d'allemand, M.A. Langue allemand, italien, français, Kazi, Gurkhali, Hindoustani. Guerre 1914-1918, interprète auprès des Third Queen Alexandra's Own Gurkha Rifles en France. Blessé à Perthes-lès-Hurlu, Marne, le 11 août 1915. Dossier militaire incomplet. Profession néant. Nombreux voyages à travers le monde, notamment Afrique de l'Est, Afrique australe et Argentine. Publication A Grammar of the Khazi Language, 1930, English Gurkhali Dictionary, 1934, Cats Galore, Essai, 1937. Adresse Manoir de Todmorden, route de Halifax, Yorkshire. Célibataire, vit avec son majordome, le subadar-major Tulba Adur Tapa, né à Dangkuta, Népal, en 1872. Héros de la Troisième Guerre d'Afghanistan, titulaire de la Victoria Cross. Christian Lloyd est emprisonné à Liverpool depuis juillet 1940 dans le cadre du règlement de défense 18B, présumé fasciste. Barnes passa la feuille au commissaire Jackson, qui venait d'arriver de Londres. Bien que l'on fût à la fin de mai, un feu brûlait dans la cheminée. À 4 heures de l'après-midi, il faisait sombre comme un soir d'hiver, et les averses crépitaient contre les vitres. Christian Lloyd était un bel homme de 47 ans, à l'évidence en pleine forme physique, svelte et pourtant imposant. À ses côtés, le subadar-major paraissait minuscule. Il portait un pansement sur le front, souvenir de l'interrogatoire musclé que lui avaient fait subir les jeunes crétins de la police, dont la promotion semblait désormais bien compromise. « Heureux de faire enfin votre connaissance, messieurs, » fit le colonel en allumant une Pleyers. « Le plaisir est pour nous, colonel, » ironisa Christen. « C'est un honneur de rencontrer une fois de plus des gentlemen. » Barnes fit la grimace. « Vous nous avez donné beaucoup de soucis, monsieur Lloyd, » reprit-il. « Votre escapade nous a fait perdre un temps précieux. »« Vous m'en voyez désolé, colonel, Le mien aussi est précieux, et je viens de perdre 2 années de ma vie en prison. Notez en outre que la cantine de la prison est immonde. J'ai horreur des tripes et du foie de veau. Nous ne sommes pas là pour parler haute cuisine, monsieur Lloyd, surtout à Carlisle, croyez-moi. J'ai une mission à vous proposer à tous les deux. Oui, tous les deux, car je souhaite que le subadar-major vous accompagne dans un petit voyage d'agrément. Il fera couleur locale. Lloyd parut intéressé. Couleur locale? Une mission en Inde, peut-être. Ma foi, ce sera toujours plus gai que Liverpool. Veuillez noter, colonel, que j'ai été arrêté et incarcéré en toute illégalité. Vous aviez de mauvaises fréquentations, répondit l'officier. Un certain Oswald Mosley, par exemple. Membre éminent d'une des plus vieilles familles d'Angleterre, anobli par la reine Élisabeth I. Certes, mais Mosley est l'ami du Führer, vous le savez bien. Nous sommes en guerre, monsieur Lloyd. Churchill n'a d'autre choix que de mettre en prison tous ceux qui pourraient collaborer avec l'ennemi. Cela dit, ce qui vous était reproché hier devient aujourd'hui votre meilleur atout. Le commissaire Jackson se leva pour resservir du thé. Puis le colonel Barnes dévoila les grandes lignes de l'opération Bushido. Lloyd l'écouta sans laisser paraître la moindre réaction. Plus rien ne l'étonnait désormais. « Si je comprends bien, murmura-t-il quand son hôte eut terminé, vous aimeriez nous envoyer au casse-pipe. Votre plan est un chef-d'œuvre, mais il est irréalisable. À commencer par le voyage aller, comment envisagez-vous de nous faire passer en Allemagne? Je refuse de sauter en parachute et je suis claustrophobe. Ne comptez pas sur moi non plus pour voyager en sous-marin. » Barnes hocha la tête. Notre idée est de vous faire traverser le détroit de Malte en bateau. Une fois à Rome, vous êtes bien optimiste, grommela Christen. Une fois à Rome, vous serez sur des rails diplomatiques. Monsieur Tappa sera votre chauffeur, voyez comme tout est simple. Vous arriverez donc en Allemagne par la route. Christen fit la grimace. Votre objectif est de localiser Subhas Chandra Bose, poursuivit le colonel. Il n'est pas sûr qu'il soit encore en Allemagne. Selon certaines sources, il pourrait être à Tokyo, à Bangkok ou à Singapour. La presse a même prétendu, il y a quelques semaines, qu'il était mort dans un accident d'avion. Pour tout arranger, il y a autant de Bose au Bengale que de Smith en Angleterre, ce qui entraîne, je le crains, bien des confusions. La situation politique en Inde évolue d'heure en heure, enchaîna le policier. L'émissaire du gouvernement, Stafford Cripps, vient de se casser les dents à Delhi. Tout va mal là-bas. Si, pour tout arranger, Bose venait foutre la pagaille en Inde, ce serait la catastrophe. Christen éclata de rire. La politique me ravira toujours. Vous reprochez à Bose d'aimer son pays, et à moi de ne pas l'aimer assez. Barnes leva les bras en signe d'impuissance. C'est cela la politique, monsieur Lloyd, soutenir une chose et son contraire. De toute façon, reprit Christen, votre scénario est foireux. Personne ne me prendra pour un Indien ou un Guanais. Je n'ai jamais mis les pieds à Goa et je ne parle même pas portugais. Rassurez-vous, intervint Jackson, j'ai prévu pour vous une série de conférences. Vous partirez demain pour Édimbourg, où vous attendent les spécialistes que nous avons réquisitionnés. Un indianiste qui a vécu 20 ans à Goa, un jésuite qui connaît mieux le Vatican que le Saint-Père, un ancien ambassadeur qui vous mettra au parfum, plus 2 ou 3 agents secrets. Dans quelques semaines, vous serez tous deux fin prêts. Reste cependant un point que j'aimerais éclaircir. Quels sont vraiment vos liens avec l'Allemagne d'aujourd'hui, monsieur Lloyd? Christen haussa les épaules. Cela faisait 100 fois qu'on lui posait cette question depuis l'été 1940. Je suis allemand par ma mère, j'ai étudié en Allemagne et j'aime la culture allemande. Mon père, comme vous le savez, était britannique, ou plus exactement anglo-indien, puisque né à Darjeeling, d'un père anglais et d'une mère indienne. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. Ne me demandez pas de choisir. Je suis tout à la fois anglais, anglo-indien et allemand. Dois-je d'ailleurs vous rappeler, messieurs, que Mountbatten s'appelle en réalité Battenberg, ce qui ne l'empêche pas de servir la couronne. J'observe que lui n'a pas été mis en prison. Revenons-en à Bushido, si vous le permettez, maugréa le colonel. Ah oui, justement. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce nom de code.
Détail sans intérêt, fit Jackson. J'ai ouvert une encyclopédie au hasard et je suis tombé sur ce mot, Bushido, le code moral des samouraïs.
Je ne crois pas au hasard, mais ne comptez pas sur moi pour me faire harakiri.
Bon, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix.
Pas vraiment, concéda le colonel. C'est Berlin ou Liverpool.
Eh bien, soit, je suis d'accord, mais il me faut une lettre officielle de Churchill.
Hors de question, intervint Jackson. Tout doit rester confidentiel.
Christine fit la moue.
Oh, il ne s'agit pas d'une lettre pour moi. Je pensais à mes chats. Une voisine s'en occupe, mais elle est vieille et peut à tout instant passer l'arme à gauche. Je veux une lettre du Premier ministre s'engageant à s'occuper de mes animaux jusqu'à la fin de la mission, et même au-delà, si d'aventure je devais ne pas revenir.
Barnes referma le dossier qu'il avait devant lui.
Vos chats? Je vous parle de la couronne et de l'Empire, et vous vous préoccupez de vos chats.
Et vous de la couronne?
Dois-je vous rappeler que je sors de prison? C'est de couronne d'épines qu'il conviendrait de parler.
Le colonel se leva d'un bond.
Bien, je verrai ce que je peux faire pour vos chats, monsieur Lloyd. En attendant, vous voilà libre. Pour fêter cela, je vous invite ce soir au Crown and Mitre Hotel. Le dîner fut lugubre. Végétarien, tapa, grignota quelques lentilles. Taraudé par son cancer, le commissaire Jackson se contenta d'une crème brûlée qu'il était en effet. Le colonel Barnes toucha à peine à la panse de brebis farcie que le maître d'hôtel lui avait recommandée. Seul Christine Lloyd fit honneur au plat du jour, un ragoût à la menthe. On parla du temps, des ondées, des averses et même des 3 ou 4 jours de soleil que Carlyle connaîtrait sans doute avant l'arrivée de l'automne. Quand il se retrouva seul dans sa chambre, au 2e étage du Crown and Mitre, Christine se servit un verre de gin, alluma une cigarette et s'étendit sur le lit. Cette opération Bushido était stupide, mais l'important était d'être en liberté. Ces crétins à la solde de Churchill allaient, au compte fait, lui faciliter la tâche, puisqu'ils lui permettraient de quitter l'Angleterre. Une fois en Italie, il serait facile de s'évanouir dans la nature et de passer en Suisse, où dormait d'ailleurs une partie de sa fortune. Churchill avait des qualités, se dit Christine, qui, comme beaucoup d'Anglais, avait un faible pour les excentriques et les comédiens. Il fallait lui reconnaître une bonne plume et un réel talent oratoire. Mais c'était un homme politique, prêt, pour conserver le pouvoir, à envoyer les naïfs à l'abattoir. La raison d'État avait bon dos. Christine n'oublierait jamais les horreurs qu'il avait connues sur le front de Verdun, du côté de Pertes-les-Hurlus. Les responsables de cette grande boucherie étaient morts dans leur lit, eux, après avoir rédigé leur mémoire et pris la pause pour l'éternité. Au lieu de parader dans les cocktails, une flûte de champagne à la main, les snobinards du Foreign Office auraient mieux fait d'apprendre l'allemand et de lire Mein Kampf. Hitler n'avait pris personne en traître. Tout était noir sur blanc dans son livre. Quand ses usines d'armement tournaient à plein régime, les démocraties, par pur angélisme, parlaient pacifisme et désarmement. Christine éteignit la lumière et alla ouvrir la fenêtre qui donnait sur la place. C'était une de ces choses interdites qu'il prenait plaisir à faire après ces 2 longues années passées à la prison de Liverpool. Il repéra vite ce qu'il cherchait, 3 voitures noires stationnées aux extrémités du triangle formé par la place. Le colonel ne prenait aucun risque et faisait surveiller l'hôtel. « Eh bien, nous attendrons l'Italie pour prendre la clé des champs, » songea-t-il. « Mais peut-on vraiment faire confiance à ces 2 lascars ?» insista Jackson, de nature sceptique, comme tous les Gallois. Le colonel haussa les épaules, puis se servit un dernier verre de gin. Avant d'aller se coucher, ils étaient repassés faire le point à Paternoster. De toute façon, poursuivit le policier, nous n'avons plus le choix. Il est possible que Christine cherche à nous fausser compagnie. De ce côté-ci de la Manche, il est facile de le surveiller. À Malte aussi, nous l'aurons à l'œil. Mais une fois en Italie, d'un trait, Barnes avala son verre d'alcool.
Il avait toujours bu, mais sa consommation avait grimpé après la mort de sa fille. Puis un beau matin, au Kenya même les matins de tragédie sont beaux, sa femme était partie rejoindre son amant en Afrique du Sud. Un amant dont le colonel ignorait l'existence, mais dont il allait découvrir quelques semaines plus tard que c'était un de ses meilleurs amis. L'homme, il est vrai, était riche et possédait une immense propriété à Johannesburg. « Il nous faudrait un moyen de pression sur Kristen, » reprit soudain le colonel, « mais le bougre n'a ni famille ni enfant. À part ses chats, que nous pourrions à la rigueur priver de croquettes, un peu court, nous avons fouillé son passé et ouvert tous les placards. Pas un seul squelette. C'est décourageant. »« Bizarre tout de même qu'il n'y ait aucune femme dans sa vie, » murmura Jackson. Sa crise était passée. L'alcool anesthésiait la douleur et le policier se sentait de nouveau immortel. Kristen était plus souvent à l'étranger qu'en Angleterre, précisa le colonel. Il avait sans doute une pouliche dans tous les ports. Cela dit, il faut reprendre notre enquête à zéro. Tout homme a son prix, mais aussi ses faiblesses, ses vices, ses petits secrets. Il nous faut de nouveau tout scruter à la loupe. Si tu es d'accord, tu repartiras demain pour Todmorden. Marsak Lock, Malte. Pisani éclata d'un grand rire quand Phyllis O'Brien eut expliqué aux pêcheurs maltais ce que les Britanniques attendaient de lui. Les deux hommes étaient attablés à la terrasse vide d'un café vide, face à la baie qui avait vu venir tant d'envahisseurs. Le soleil de cette fin d'après-midi était doux, mais chacun sentait que les feux de l'été ne tarderaient pas. « Impossible, signor !» s'exclama le pêcheur. « La Sicile est à 50 000. Même avec un bon moteur, ce n'est pas la porte à côté. Le détroit grouille de sous-marins et de navires ennemis. Il y a des mines. Les Allemands et les Italiens sont présents partout, sur la mer, sous la mer et dans les airs. Seul un fou accepterait de traverser. » Même avec un temps de chien et une nuit sans lune, il n'y aurait pas une chance sur 1000 de réussir. Le moyen le plus sûr est le sous-marin. O'Brien trempa ses lèvres dans son verre de rakja. Trop risqué, monsieur Pisani, d'autant que pour tout arranger, un de nos clients est claustrophobe. On pourrait à la rigueur l'endormir pour la durée de la traversée, mais imaginez son état de fraîcheur en débarquant en Sicile. Non, c'est un bateau qu'il nous faut. Ne rêvez pas, monsieur O'Brien, c'est impossible. L'Angleterre saurait se montrer généreuse. S'approchant du Maltais, l'Irlandais lui glissa un chiffre à l'oreille. Pisani fit la grimace. C'était plus d'argent qu'il n'en avait gagné à trimer sur son Lutzu depuis 30 ans. Mais il secoua la tête. C'est une somme, j'en conviens. Mais ma vie vaut tout l'or du monde. Un compte en banque ne remplace pas un père. O'Brien se leva après avoir laissé quelques pièces de monnaie sur la table. Rien ne presse, monsieur Pisani, je vous rappellerai dans quelques jours. Il alluma sa pipe, puis, sans se presser, alla rejoindre sa voiture devant l'église. Le Caire. Kurt Wolf sortit de sa cache la grille qui allait lui permettre de crypter son message. Ses chefs à Berlin n'allaient pas sauter de joie, mais qui pouvait-il? Les Britanniques avaient été plus rapides que lui. Le texte était court. Da Silva décédé subitement au Caire. Lawrence entre les mains des Britanniques. Mission abandonnée. Enregistré par le service d'écoute des Britanniques à Malte et aussitôt décodé, le message parvint à Paternoster 5 heures plus tard. À Berlin, le texte fut jugé d'un intérêt mineur par le sous-officier de service. Mais, puisqu'il était lié à l'Inde, il atterrit sur le bureau de Martin Wurtz. Beira, Mozambique portugais. Ce même 29 mai, Jutta Wurtz arrivait à Beira après un voyage en mer éprouvant. Le navire portugais avait une avarie et risquait de rester à quai pendant quelques jours. L'Allemande descendit dans un hôtel. Et c'est alors que la chance lui sourit. Un hydravion du service des postes s'envolerait le lendemain même pour Lorenzo Marques, la capitale. Le prix du billet était d'autant plus facilement négociable que les deux hommes d'équipage n'étaient pas censés prendre des passagers, mais une blonde reste une blonde, même à 52 ans. Une fois dans le sud, il serait sans doute facile à Utah de trouver un vol pour la Guinée portugaise. Puis elle gagnerait Lisbonne, où elle serait prise en charge par le correspondant de l'Abwehr. Avec un peu de chance, elle serait de retour à Berlin dans une dizaine de jours. Elle avait hâte de revoir son frère Martin.